Et nous arrivons au chapitre 13. Alors, le chapitre 13, qui va traiter du règne de l'Antichrist et du faux prophète. Nous allons lire d'abord les versets 1 à 10. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant, « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles qu'il entende, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Amen. Voici donc ici au début, dans cette première partie du chapitre 13, la bête qui monte de la mer. La bête, c'est la traduction du mot grec thérion. Et dans le grec thérion désigne un animal sauvage, sauvage et cruel. Ce passage appelle son rapprochement avec le chapitre 7 de Daniel, où, dans la vision qu'a eue ce prophète, il y a 4 grands animaux qui, eux aussi, sortent de la mer. Alors, si vous voulez, nous allons nous reporter à Daniel, chapitre 7. Nous n'allons pas lire longuement, mais nous allons pouvoir prendre le chapitre 7 au verset 2. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées, et il fut enlevé de la terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici, un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Après cela, je regardais, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau, Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait
et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elles et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance.
Nous arrêtons là notre lecture dans le livre de Daniel. La mer est souvent désignée comme l'abîme. Et c'est donc de l'abîme que sortent les 4 grands animaux que Daniel a vus dans ses visions nocturnes. Lors de la création de la terre, on voit la mer et qui correspond aux eaux de dessous le cercle, tracé par Dieu comme limite entre la lumière et les ténèbres. Il y a dans le livre de Job une mention qui nous dit que Dieu a tracé un cercle. Il a tracé un cercle dans la Genèse, au début de la Genèse. Nous voyons que les eaux du dessous ont été séparées, ou les eaux du dessus ont été séparées des eaux du dessous. Si bien que les eaux du dessous, avec les ténèbres, ont été enfermées dans le cercle que Dieu a tracé. Vous voyez que la Bible savait bien que la terre était ronde, puisqu'il s'agit de cercles. Et alors, les eaux du dessus sont les eaux qui sont dans la lumière. Et puis, les eaux du dessous, le cercle, il faut lui reconnaître qu'il a pour position l'altitude 0, c'est-à-dire le niveau de la mer. Alors, les eaux du dessous sont les eaux de la mer qui sont enfermées avec les ténèbres. Et cela subsiste tout au long de la Bible. La mer est donc le séjour des ténèbres, l'abîme. Elle est appelée l'abîme. Paul dit qu'il a passé une nuit tout entière dans l'abîme. Le prophète Ésaïe, pour sa part, déclare que l'Éternel tuera le monstre qui est dans la mer. Vous voyez, la mer est bien le séjour où se tient le monstre, le Léviathan. Les 3 premiers des 4 grands animaux de la vision de Daniel, tels que nous les avons vus dans le chapitre 7, les 3 premiers de ces grands animaux qui représentent des nations, qui représentent des empires, si vous voulez, des royaumes ou des empires, ces 3 animaux ressemblent respectivement, avons-nous lu, un lion, le premier à un lion, le deuxième à un ours qui est un peu sur le côté, et le troisième à un léopard. Quant au 4e animal, il est terrible, mais on ne lui assigne pas, Daniel ne lui assigne pas une ressemblance particulière. Il est terrible, il est épouvantable et fort, et il a 10 cornes. Alors, que sont ces animaux? Vous devez le savoir. Ces animaux représentent, sous forme de figures, d'emblèmes, plus exactement, de symboles, représentent successivement, dans le temps, l'Empire babylonien d'abord. L'Empire babylonien, c'est le premier animal. Il a duré de 606 à 538 avant Jésus-Christ. Vous savez qu'avant Jésus-Christ, on calcule le temps en diminution, n'est-ce pas? En diminuant. On va vers zéro, n'est-ce pas? Alors, là donc, de 606 à 638, l'Empire babylonien, il correspond par conséquent au lion. 506 à 538. Et puis, ensuite, le second, qui est précisément cet ours, c'est l'Empire des Mèdes et des Perses. L'Empire des Mèdes et des Perses, qui lui a duré de 538 à 330 avant Jésus-Christ. Le troisième animal, qui est un léopard, qui a des ailes, qui parcourt la terre, et qui a quatre têtes aussi, celui-là, c'est l'Empire grec d'Alexandre. C'est très caractéristique, Alexandre, n'est-ce pas, c'est ce conquérant, ce roi macédonien qui est parti en flèche, là, en conquérant, il volait presque sur la terre, tellement avec ses armées montées sur des coursiers, tellement il allait vite. Hein. Alors, lui, il a tenu de 330 à 65, mais sous la réserve suivante, c'est que Alexandre lui-même est mort assez tôt, Alexandre le Grand est mort assez tôt, et il a eu pour successeur quatre généraux, ce sont les quatre têtes qu'on voit, n'est-ce pas, les quatre généraux qui ont continué cet empire, et en somme en constituant quatre royaumes dont deux surtout sont intéressants dans l'histoire qui touche à la Bible. Et alors en 65, à partir de 65, c'est le quatrième animal. L'Empire d'Alexandre, dont nous lui assignons, 330 avant Jésus-Christ jusqu'à 65, et à partir de 65 avant Jésus-Christ, commence l'Empire, le quatrième Empire, qui est l'Empire romain. L'Empire romain, cet empire terrible, c'est lui, l'Empire romain. La bête de notre chapitre 13 correspond à ce quatrième animal de la vision de Daniel. Comme ce quatrième animal, la bête a en effet 10 cornes, et puis elle profère des paroles arrogantes, des blasphèmes contre Dieu. Cela, nous pouvions le voir aussi au verset 8, au verset 25 du chapitre 7 de Daniel. Cette bête fait la guerre aux saints, ce que Daniel signale aussi dans son verset 7, dans son verset 21. Et elle a le pouvoir d'agir pendant 3 ans et demi. Daniel le signale aussi d'une manière différente. Il dit pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Alors le temps, c'est une année, c'est-à-dire pendant une année, deux plus deux années plus la moitié d'une année, ça fait 3 ans et demi. Sommes donc en accord avec cette bête qui sort de la mer du chapitre 13 de l'Apocalypse et le chapitre 7 de la vision de Daniel. Il y a une certaine légère différence, et la différence vient de ceci. C'est que le quatrième animal de Daniel, l'Empire romain, est vu depuis son début, en moins 65 avant notre ère, jusqu'au règne de Christ. Tandis que la bête de l'Apocalypse du chapitre 13 représente bien ce même empire, mais ce même empire reconstitué à la fin des temps sous le gouvernement de l'Antichrist. Voilà ce qui fait une légère différence dans la vision entre la vision de Daniel et celle de Jean. La bête du chapitre 13 préfigure donc l'empire de l'Antichrist, et Jean lui reconnaît à cet empire les ressemblances suivantes. Il lui reconnaît la ressemblance avec le léopard. Le léopard, c'est donc l'empire grec d'Alexandre, et c'est ce qu'il caractérise, c'était l'aptitude à la conquête, une conquête rapide. Ensuite, il lui reconnaît une ressemblance avec le Second Empire, les Mèdes et les Perses, c'est-à-dire les pieds de l'ours. Les pieds de l'ours. L'ours, avons-nous lu, se lève pour manger beaucoup de chair. Et on lui dit « mange beaucoup de chair », c'est-à-dire qu'il prend, il saisit, il remporte des victoires sur des régions proches, sur des États proches, et il se les approprie. Ensuite, la troisième ressemblance que Jean accorde à ce quatrième animal, c'est la gueule de lion. La gueule de lion, alors ça c'est une ressemblance avec le premier empire, celui de Babylone. Nous pouvons voir là une évocation de la puissance dominante de cet empire. Ainsi, ce terrible empire de l'Antichrist, le quatrième empire de Daniel, qui devient à la fin, qui se reconstitue pour être l'empire de l'Antichrist, disposera d'une puissance d'exécution très grande, qui est représentée par ces 10 cornes, sur lesquelles nous allons d'ailleurs par la suite en apprendre davantage. Sa capacité, la capacité de cet empire, et son idéologie, parce qu'il possède une idéologie, son idéologie se fonderont avec sa capacité sur le blasphème, et il mènera ainsi une lutte verbale et ardente. Je dis verbale puisqu'il s'agit de blasphème et de paroles injurieuses à l'adresse de Dieu. Il mènera donc une lutte verbale et ardente contre Dieu. Il réunira en lui tous les aspects de mal des empires d'autrefois. Tout ce qu'il y a de mauvais, de pire dans les empires précédents de la vision de Daniel, les 3 premiers empires, il les prend à lui. Hein? Prend tout ce qu'il y a de mal. Et il ne prend rien de ce qui pouvait être encore bon. Tout ce qui est mal. La terre, c'est-à-dire la société humaine, qui à ce moment-là baigne dans l'apostasie, accueillera avec beaucoup d'empressement, de satisfaction, l'avènement d'une puissance politique universelle, et elle l'admirera. Toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Derrière, c'est-à-dire qu'elle suivait la bête, n'est-ce pas? Elle s'était, toute la terre se range derrière la bête, elle suit la bête et elle est dans l'admiration. C'est curieux comme dans notre siècle qu'on appelle encore le siècle des Lumières, le siècle de l'intelligence, des grandes découvertes, du progrès de la science, c'est curieux comme les hommes sont véritablement dépourvus de sagesse, d'intelligence, et en définitive sont aptes à devenir des moutons de Panurge. La terre estimera l'empire de l'Antichrist surnaturellement invincible et capable d'instaurer l'ordre et la paix qui sont tellement désirés. Vous savez qu'actuellement, sur la terre, on désire la paix. On travaille pour la guerre, mais on désire la paix. On travaille pour la guerre pour avoir la paix, n'est-ce pas? Ça, c'est un paradoxe, n'est-ce pas? On fait tout ce qu'on peut pour augmenter l'arsenal de la terre, on travaille donc pour la guerre, mais on veut la paix. C'est la paix qu'on veut. Eh bien, on sent bien, n'est-ce pas, qu'il y a un grand désordre, un désordre politique, un désordre économique, un désordre moral. Ça, on le sent très bien. L'homme ne s'en attribue pas la responsabilité toujours, quelquefois tout de même. Je rappelle, par exemple, que le club de Rome, qui a été sous, je pense qu'il est toujours sous la présidence de M. Peccei, en 1978, oui, en 1978, ce club de Rome, qui réunit des économistes, des politologues, des toutes sortes de hautes compétences, ce club avait conclu ses travaux en disant « Nous n'avons pas de sagesse ». Ah, il parlait de la terre en général, de tous les milieux dirigeants. Nous n'avons pas de sagesse, c'est manifeste. Et nous ne pouvons pas compter sur une sagesse que nous n'avons pas. Et il disait même, nous avons 10 ans pour sauver la terre. Si dans 10 ans, nous n'avons pas réussi à trouver les solutions fondamentales qui pourraient établir sur la terre un ordre durable, eh bien, ce sera perdu, ce sera fini. Il n'y aura plus moyen après. Or, ça, c'était en 78, 10, ça fait 88. Nous arrivons à l'échéance que ce club de Rome avait prévu, n'est-ce pas, 10 ans. Si dans 10 ans, or aujourd'hui en 88, on est loin d'avoir trouvé la solution à toutes les difficultés que la Terre connaît, difficultés financières et autres, n'est-ce pas, financières, économiques, politiques, etc. On est loin d'avoir trouvé la solution. Hein. Nous sommes, en effet, n'est-ce pas, il faut bien voir la situation dans son ensemble, nous sommes sous le coup de trois grandes hégémonies, hein, et qui veulent prendre la terre, posséder, et qui luttent chacune de son côté. Quelles sont ces trois hégémonies? Eh bien, il y a l'hégémonie soviétique. C'est une hégémonie. Il ne faut pas se le cacher, c'est pas la peine de dire, c'est pas besoin d'être communiste ou d'être anticommuniste pour voir les choses, n'est-ce pas? D'ailleurs, quand il y a vraiment un écrit assez libre, ben, on reconnaît tout de suite que la Russie poursuit toujours son dessein d'hégémonie, hégémonie mondiale, tel que Lénine l'avait voulu. Bon, donc il y a l'hégémonie soviétique. Il y a une autre grande hégémonie qui est là, qui semble quelquefois composée avec l'hégémonie soviétique, c'est l'hégémonie de l'islam. Pas oublier que l'islam, lui aussi, a son projet, grand projet, qui vient de ses origines, un projet d'hégémonie sur le monde. On le déclare ouvertement. Ah, le but maintenant de l'islam, le but repris par l'islam, c'est d'islamiser le monde entier. Ah, le monde entier. C'est ce que Mahomet avait lui-même décrété, n'est-ce pas? Il faut que l'islam devienne la religion du monde entier et en même temps la structure politique, fournisse au monde entier la structure politique. Et les propagandistes de l'islam nous disent, eh bien, vous voyez bien que par d'autres méthodes, vous n'avez réussi à rien du tout. Ils nous disent, même votre christianisme, voyez, vous avouez vous-même, n'est-ce pas, il est en dépérissement. On parle d'une déchristianisation, et c'est pas, ce ne sont pas les porte-paroles de l'islam qui le disent, ils ne font que le souligner, c'est nous-mêmes dans nos écrits qui l'avons dit, cela. Hein. Il y a une déchristianisation, et c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une déchristianisation, nous l'avons constaté. Il y aura une église de multitude qui va se constituer, hein, mais ça, ce n'est pas une véritable christianisation. La christianisation qui monte des siècles est en dépérissement. L'Occident a perdu sa position dans le christianisme. Donc il y a l'hégémonie de l'islam. Cette hégémonie qui actuellement est servie par essentiellement la partie fanatique entre les mains de Khomeini, hein, l'ayatollah Khomeini, et par d'autres aussi, n'est-ce pas? Il y a un jeune chef là qui se prépare là à Kaboul, hein, et qui se prépare lui aussi à imiter Khomeini. Et puis enfin, de tout sens, si on avait à chercher les prophéties qui correspondent à ça, on les trouverait dans la Bible. Il y a une prophétie sur la montée de l'islam à la fin des temps dans le monde, n'est-ce pas ? Elle est prophétisée dans le chapitre 21 d'Ésaïe. Bon, alors il y a ces deux hégémonies-là, hein, deux grandes hégémonies qui veulent le monde, l'une et l'autre. Et il y en a une troisième qui veut aussi le monde. Une troisième hégémonie, vous allez me dire peut-être laquelle, non. Eh bien, la troisième hégémonie, c'est celle de Dieu. Dieu aussi veut la terre. Dieu aussi veut le monde. C'est l'hégémonie, le projet d'hégémonie de Dieu, appelons-le la même chose, n'est-ce pas ? C'est le bon, celui-là. Mais il est là aussi, n'est-ce pas ? Et Dieu, lui, n'agit pas comme les autres, évidemment, comme les deux autres partisans de l'hégémonie, hein ? N'est pas la même chose. Mais il est évident que Dieu, lui aussi, a un projet d'hégémonie sur le monde. Il y a donc ces trois poussées hégémoniques qui se manifestent dans le monde. Alors, l'empire de l'Antichrist, lui, va survenir à un moment où il va s'efforcer de prendre toutes les forces qui tendent à l'hégémonie sur le monde, il va même d'autorité les prendre à lui. Et lui, alors, il va pas tellement servir l'hégémonie soviétique ou l'hégémonie islamique, mais il va apporter à lui un projet unique d'hégémonie sur le monde, exactement contre le plan de Dieu. Donc la terre va éprouver une grande satisfaction de l'avènement de cette puissance politique universelle, unique. Elle l'estimera invincible, avons-nous dit, et capable d'instaurer l'ordre tant attendu, surtout après les temps d'incertitude et de confusion que nous connaissons maintenant, n'est-ce pas ? Nous sommes dans des temps vraiment de confusion. Et alors on va encenser ce nouvel et vaste empire par un hommage allant jusqu'à l'idolâtrie. Voilà, n'est-ce pas, l'empire mondial. On va avoir un gouvernement mondial. Donc, par conséquent, tout va pouvoir entrer dans le principe de la paix, Il y aura une seule direction, il y aura un seul commandant, un seul homme sur la terre tout entière. C'est magnifique, c'est comme ça qu'on va avoir la paix. Entre-temps, la puissance soviétique aura trouvé, elle, sa destruction. La puissance soviétique va trouver sa destruction bientôt. Bientôt. Ça, ce n'est pas dans le cadre de l'Apocalypse, c'est dans une autre prophétie. Nous voyons que la puissance soviétique va sombrer. Donc, je pense que quand l'empire de l'Antichrist va se constituer, bientôt, la puissance soviétique aura sombré. Par conséquent, l'hégémonie soviétique elle-même, n'est-ce pas, disparaît. Je dis cela en m'appuyant sur la prophétie de Gog et Magog d'Ézéchiel, chapitre 38 et 39. Certains hommes, toutefois, n'adoreront pas la bête, nous a dit notre passage. Tous les habitants de la terre l'adoreront, sauf ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie, c'est-à-dire tous les habitants de la terre dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau, encenseront la bête. Il y a donc des hommes qui feront exception à cela et dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Et un avertissement est donné au verset 9 et 10, qui est destiné à prévenir les membres de l'Église, les saints, nous-mêmes, de ne faire aucun usage d'aucun pouvoir humain ou charnel pour se défendre. Il faudra donc que les fidèles du Seigneur écartent radicalement ce qui sera la règle sous l'autorité de la bête et montre ainsi qu'il persévère dans la foi en la parole de Dieu. Il y aura dans l'empire de l'Antichrist des hommes qui vont bien sûr subir le martyre, mais qui persévéreront tout de même dans la foi, ne voudront pas suivre l'Antichrist, ne voudront pas porter sa marque. Et alors cela, il leur est dit, n'est-ce pas, de ne pas se servir des moyens de violence, de contrainte. Si quelqu'un mène en captivité, ben lui aussi, il ira en captivité. Dieu prévoit pour ce moment particulier, immédiatement, la conséquence des actes d'autorité, de domination ou de violence qui seront perpétrés, n'est-ce pas ? Quelqu'un veut emprisonner un autre, ben lui aussi, il ira en prison. Si quelqu'un tue par l'épée, eh bien lui aussi sera tué par l'épée. Bien sûr, là, c'est à l'état de principe, ça nous est donné, n'est-ce pas, à l'état de principe. Ça veut dire, si quelqu'un utilise la contrainte, la force, la domination, la violence, hein, eh bien lui aussi, il sera victime de cela. Donc, il est dit aux chrétiens, à ceux qui veulent se ranger sous la bannière de Dieu, de ne pas suivre ce que sera la règle à ce moment-là. Et alors, ne pas se ranger, c'est cela qui sera la persévérance et la foi des saints. Alors, c'est un avertissement pour nous maintenant, un avertissement que nous pouvons recueillir, nous, lecteurs de l'Apocalypse. Alors, je reviens au verset 3, où nous avons vu « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. » L'une des têtes, puisque la bête avait 10 cornes et 7 têtes. Alors, l'une des 7 têtes est blessée à mort, et sa blessure mortelle fut guérie. Alors il y a comme blessé à mort. Ça ne veut pas dire que c'était cette blessure pouvait amener la mort. C'est-à-dire que cette blessure a amené la mort. Comme ici n'est pas à comprendre dans le sens habituel où on emploie ce mot. Vous avez par exemple dans le chapitre 5 de l'Apocalypse que l'agneau était comme immolé. Or, nous savons très bien qu'il a été réellement immolé. C'est-à-dire ici, je vis l'une des têtes comme blessée à mort, c'est-à-dire une des têtes qui avait été blessée à mort. Et sa blessure mortelle fut guérie. Alors nous retenons ça parce que cette tête préfigure ici particulièrement l'Antichrist. La bête, c'est l'Empire, avons-nous dit. Nous verrons que l'utilisation de ce symbole est très souple et va être fait un peu différemment par la suite. Mais là, ici, n'est-ce pas, nous voyons que la bête, c'est l'Empire. Seulement, l'une de ces sept têtes qui est blessée à mort et dont la blessure guérit, désigne vraiment bien l'Antichrist. Les sept têtes sont sept rois. Le chapitre 17 va nous ramener à cette question. Nous avons maintenant à poursuivre le chapitre 13 à partir du verset 11. Verset 11, à partir du verset 11, oui, je dis bien, le verset 11 au verset 18. Alors là, nous allons faire connaissance avec une deuxième bête. Et pourquoi le symbole est-il celui-là, c'est-à-dire une bête monstrueuse, terrible? Parce que l'Empire, ainsi désigné, l'Empire, la bête qui sort de la mer, l'Empire de l'Antichrist, le quatrième Empire, est quelque chose de monstrueux, quelque chose qui ne procède pas, peut pas procéder de l'intelligence, et quelque chose que Dieu n'a jamais voulu. Il n'y a rien là-dedans que Dieu ait pu vouloir, rien du tout, c'est monstrueux. C'est comme si aujourd'hui, n'est-ce pas, en zootechnie, par toutes sortes de manipulations génétiques, on nous faisait un animal à deux têtes, à trois têtes, on nous faisait, n'est-ce pas, en manipulant les gènes, tout ça, enfin, on peut aujourd'hui faire des monstruosités, alors on nous sortirait une monstruosité, ce serait là, n'est-ce pas, un être vivant que Dieu n'aurait pas voulu. Et ça s'est déjà produit dans l'histoire de l'humanité, ça. Ça s'est produit dans l'histoire de l'humanité. Avant le déluge, l'homme a trafiqué. Ce n'est pas qu'à ce moment-là, il disposait des moyens de manipuler les gènes, mais c'est qu'il avait des pouvoirs que Dieu ne lui avait pas ôtés entièrement. Il avait des pouvoirs de domination, d'assujettissement sur la création de Dieu. Ces pouvoirs ont duré jusqu'au déluge. Et l'homme qui était alors habité, n'est-ce pas, par le péché, l'homme qui était sous l'empire du péché, a rêvé de gigantisme. Et alors, comment a-t-il fait? Il avait des pouvoirs. Il n'était peut-être pas d'ordre scientifique comme aujourd'hui, et il avait des pouvoirs surnaturels. Et alors, il est arrivé à faire des dinosaures qui avaient 30 mètres de long, depuis le bout du nez jusqu'au bout de la queue, n'est-ce pas? Même plus, des bêtes énormes qui avaient quelquefois une petite tête, un cou très long, un gros corps, des petites pattes devant, n'est-ce pas? Et puis des grosses pattes derrière. Enfin, c'était monstrueux, monstrueux. Et vous savez que ces dinosaures n'ont pas vécu. Ils ont disparu d'un seul coup. Hein. Bon, ce n'est pas le moment d'expliquer comment ils ont disparu, mais la paléontologie, les paléontologistes vous le disent, n'est-ce pas, ils ont disparu. Ils se situent cette disparition à la fin du secondaire. Et alors, ils étaient apparus comme une gerbe d'un seul coup. C'est très mystérieux, ce monde des monstres, des dinosaures. Et remarquez ceci, c'est qu'ils ne sont pas entrés dans l'arche. Le Seigneur n'a pas fait entrer ces grosses bêtes-là dans l'arche. Et alors, ce qui également est assez surprenant, c'est que l'on trouve des œufs de dinosaures, de véritables dinosaures, qui étaient des animaux d'un mètre, à peu près, n'est-ce pas ? Il y a à peu près d'un mètre. Donc, il y avait à l'origine des bêtes qui avaient un certain équilibre, comme tout ce que Dieu a créé, et qui étaient ovipares, et que l'homme a déformé, voulant faire du gigantisme. L'homme a toujours eu cette passion, l'homme pêcheur, cette passion du gigantisme. Et nous le voyons aujourd'hui, n'est-ce pas, dans les machines, les instruments, que l'homme se sent le pouvoir de réaliser, c'est toujours plus grand, toujours aller plus vite, la vitesse, la grandeur. Enfin, alors, c'est un mal inhérent à l'état de péché de l'homme. Bien. Alors, nous allons voir maintenant le verset 11. Et nous allons lire jusqu'à la fin du chapitre 13. « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Non, c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Alors, nous allons voir un petit peu ce que nous dit cette seconde partie du chapitre 13. L'Antichrist et son empire, où s'exerce un despotisme implacable, s'adjoint un pouvoir religieux, conduit par quelqu'un qui va être appelé le faux prophète. Ici, c'est la bête qui sort de la terre, le faux prophète. Faux prophète qui est représenté sous le symbole d'une bête montant de la terre. Alors, nous allons vérifier que c'est bien le faux prophète, parce que il se trouve que des commentateurs ont bouleversé ça aussi, et ils ont dit que la seconde bête, c'était l'Antichrist. On peut tout dire, n'est-ce pas? Je ne sais pas, moi, comment on fait pour commettre des erreurs comme ça, mais enfin, il y en a plusieurs qui ont dit cela. Alors que nous voyons que le dragon donne sa puissance à la première bête, le dragon c'est Satan, il donne sa puissance à la première bête. La puissance politique c'est bien la première bête, c'est l'Antichrist. Mais nous allons vérifier que la seconde bête est bien le faux prophète. Vous avez retenu ce que nous avons lu là à l'instant. Alors reportons-nous au chapitre 19 tout de suite et au verset 20. Et la bête fut prise. La bête, c'est la première bête, celle qui sort de la mer, c'est-à-dire l'Antichrist. Hein? L'Antichrist, parce que la bête est quelque, je vous ai dit, signifie tantôt l'Empire, tantôt l'Antichrist lui-même. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image, ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Vous voyez que celui qui est appelé le faux prophète, c'est celui qui fait des prodiges. Les prodiges par lesquels il séduit les hommes ayant pris et qui vont prendre la marque de la bête. Or, n'est-ce pas, nous voyons que c'est bien la seconde bête, nous l'avons lu, qui en effet fait des prodiges pour séduire les hommes. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes, elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer. Ainsi, donc, le chapitre 19 nous dit que le faux prophète, c'est bien la bête qui fait des prodiges, c'est-à-dire la seconde bête. C'est clair, c'est net, n'est-ce pas ? On ne voit pas pourquoi on commettrait là une erreur. Jésus a dit, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Cela dans Matthieu 24, 24. L'Antichrist que nous voyons là et le faux prophète arrivent au sommet de la succession de ces faussaires annoncés par Jésus. Des faussaires, des faux Christ, il y en a eu, il y en a même encore, il y en a eu. Hein. Il y a eu en France, par exemple, le Christ de Montfavet. Hein. Bon. Il y a eu Ben David, là, un certain Ben David, n'est-ce pas, en Israël, qui disait, mais le Christ, enfin, le Messie, c'est moi. C'est moi, reconnaissez-moi, je suis le Messie. Et puis il y en a eu d'autres, il y en a presque un catalogue. Alors, donc, il y a eu des faux Christ, le Seigneur l'avait dit, et des faux prophètes, il y en a eu. Il y en a eu, et il y en a encore, n'est-ce pas ? Il y en a encore. Mais, à la fin, il y a le couronnement de cette succession de faux Christ et de faux prophètes, c'est le grand faux Christ, l'Antichrist, et c'est le grand faux prophète de la fin. Alors, les autres, ils disparaissent à ce moment-là, et il n'y a plus que ces deux-là, n'est-ce pas, vraiment l'Antichrist, qui prend la place du Christ. Il s'appelle Antichrist, on l'appelle dans nos versions l'Antéchrist, mais ça ne se justifie pas, parce que anté, c'est emprunté au latin, et anté veut dire avant. C'est vrai que l'Antichrist vient avant le Christ, il ne pourrait pas venir après, il vient avant. Mais dans le grec, c'est le préfixe anti qu'il faut prendre du grec, le anti, qui veut dire contre et à la place de. L'antichrist prend la place du vrai Christ. La seconde bête sort de la terre, c'est-à-dire qu'elle sort du monde. La première sortait de l'abîme, et la seconde, elle sort du monde, par une voie donnant confiance. Et nous avons tout lieu de penser qu'elle sort du monde, donc elle sort avec les titres qu'elle peut obtenir par le monde, dans le monde, n'est-ce pas ? C'est en raison de ces titres, surtout, qu'elle est choisie par le diable, parce que c'est le diable qui manœuvre tout ça, elle est choisie en raison de ces titres qui vont donner confiance, et on peut dire que ces titres, elle les a notamment obtenus par de hautes études. Nous allons trouver là un grand intellectuel, hein, un grand théologien peut-être, hein. Par là comme un dragon, les deux cornes du genre de celles d'un agneau qu'elle porte attribue à cette bête un dehors, une apparence de soumission, de douceur. L'agneau est caractérisé par sa douceur, et même une apparence, peut-être une signification de sacrifice d'elle-même. Voilà une bête qui va venir se sacrifier en elle-même. En somme, elle fait peut-être elle aussi une copie de Christ, mais du Christ vu comme l'agneau, n'est-ce pas ? Vous, elle vient se montrant comme désireuse, prête à se sacrifier elle-même pour le bien de la terre, et alors elle vient avec douceur, onctuosité et soumission. Alors que quand on l'écoute, qu'entend-on ? On entend des propos tels que ceux du dragon. Elle a le même langage que l'Antichrist. Le même langage que l'Antichrist. Alors on ne peut s'en étonner de cela, car dans l'histoire du christianisme, sans excepter notre temps actuel, eh bien on a connu plus d'un homme présentant cette double face. Et je pense actuellement à des personnages célèbres qui ont cette double face. Maintenant, je ne veux pas me nommer, c'est pas la peine. Mais j'y pense. À vous d'y penser peut-être aussi. Mais en tout cas, dans l'histoire, il y en a eu, n'est-ce pas ? On a vu ça. Non seulement chez les cardinaux qui ont joué un rôle politique et qui avaient le dehors d'hommes religieux, doux, prêts au sacrifice, n'est-ce pas ? Et puis qui maniaient l'autorité, qui maniaient même la violence. La mission du faux agneau est celle d'une éminence grise, ne quittant pas son maître, l'Antichrist. Elle a l'art de faire adorer l'Antichrist par les foules. C'est une capacité, un art qui lui est donné par Satan, naturellement. L'art de faire adorer l'Antichrist par les foules, au moyen non seulement l'Antichrist, mais même le système dont l'Antichrist est le chef, c'est-à-dire l'Empire. Elle fait adorer tant le chef que l'Empire lui-même. Qui est semblable à la bête, qui est semblable à cet ordre, ce grand ordre qui résulte de l'Empire, de l'Antichrist. Alors, elle y réussit, le faux prophète, ou la seconde bête, ou le faux prophète, y réussit au moyen de grands prodiges, réalisés avec une puissance qu'elle possède, qui lui a été donnée, et dont elle tire une force de séduction. Évidemment, à faire des prodiges est extraordinaire. Et quand ce sont des prodiges qui s'inscrivent dans la ligne des plans de l'ennemi, des plans du diable, alors là, les hommes se reconnaissent, ils sont d'accord. Une religion du diable, ils sont tout prêts à l'accepter. Si maintenant, n'est-ce pas, et ça va venir, hein, cette religion du diable apparaissait, mais c'est pas comme l'évangile, n'est-ce pas, où il faut pêcher à la ligne, n'est-ce pas, les âmes, mais ça, vous verriez les foules venir. Et c'est pourquoi une église apostate pourra se constituer en église de multitude. Là, la religion du diable, c'est la religion qui plaît à l'humanité corrompue, l'humanité livrée à l'iniquité. De plus, le faux prophète incite la terre entière à ériger une image de la bête. Une image, dans le texte, c'est le mot « eikon », c'est donc une icône, et probablement une statue, ce qu'on appelait l'icône. Hein. Vous savez qu'au début de l'Église, il y a eu l'iconographie, l'introduction des images et des statues. Hein. Eh bien, là, c'est probablement une statue. En tout cas, le mot ici est « eikon ». Alors elle incite la terre à ériger une image de son puissant maître, et son pouvoir va même plus loin, il va jusqu'à animer cette statue, cette image ou cette statue, et à la faire parler. Alors, il y a des gens qui sont, des commentateurs qui sont très avisés, hein, et puis qui disent, c'est tout simple, animer, il y a la télévision, n'est-ce pas, voilà, alors avec la télé, je ne vois pas comment d'ailleurs la télévision pourrait animer une statue, enfin, on peut faire tout ce qu'on veut, évidemment, on peut faire tous les trucages qu'on veut à la télévision. Alors, ils ont parlé de télévision. Il ne s'agit pas de cela, il s'agit d'un pouvoir surnaturel du diable. Et le diable est capable, avec son pouvoir surnaturel, n'oublions pas qu'à ce moment-là, Dieu lui laisse un temps. Hein? Dieu a ôté son esprit de la terre, et il laisse au diable le champ libre. C'est pour ça, d'ailleurs, que l'Antichrist peut paraître. Hein? Alors là, le diable, il est là, sur la terre, il a toute faculté de pouvoir utiliser sa puissance. Et il est capable il n'a pas la puissance de la vie, mais il est capable d'animer une image ou une statue. Donc cela se fera non pas par une réalisation technologique, mais d'une façon surnaturelle. Même si la télévision intervient, elle, pour diffuser l'image animée que le faux prophète aura pu mettre réalisée. Et alors, quiconque sur la terre à ce moment-là ne cédera pas au commandement d'adoration de la bête sera mis à mort. Ça, c'était comme avec Nebuchadnezzar, n'est-ce pas? Il fallait adorer la statue. Si quelqu'un n'adore pas cette statue, il est mis à mort. La majorité des hommes entraînés à renier Dieu salueront dans ce puissant régime le début d'une ère merveilleuse, d'une ère nouvelle, où la vue remplace la foi, puisque il s'agit d'un Dieu qui est visible. Enfin, le Dieu qui est visible, c'est l'Antichrist. Voilà, n'est-ce pas, quelqu'un qu'on va regarder comme un Dieu. Satan est en lui, n'oublions pas que Satan possède l'Antichrist, n'est-ce pas. Satan n'aura été personnellement qu'en deux hommes. Le premier, Judas. Le second, l'Antichrist, qui sont appelés tous les deux l'homme du péché. L'homme du péché. Alors, la vue remplace la foi. Et ça aussi, c'est ce que l'humanité pécheresse, l'humanité qui est mue par la puissance du péché, c'est ce qu'elle attend, ce qu'elle désire, elle veut voir, elle veut un Dieu qui voit, comme disaient les Israélites dans le désert, nous voulons un Dieu qui marche devant nous, qu'on puisse voir, alors on fait un veau d'or, hein. On veut un Dieu, on veut le voir ce Dieu, un Dieu qu'on ne voit pas, c'est quelque chose qui déconcerte, quelque chose qui satisfait l'âme purifiée. L'âme qui est revenue à Dieu. Mais nous ne voudrions pas voir un Dieu, n'est-ce pas ? Nous ne voulons pas voir Dieu avant le temps. Nous savons que ça n'est pas possible, ça ne serait pas bon. Nous ne pouvons voir Dieu que quand tout sera réglé, que nous serons nous-mêmes dans l'état de perfection. C'est à ce moment-là que nous verrons Dieu. Mais le voir avant, nous comprenons que cela n'est pas bon. Pour le voir, alors il faut quitter cette terre et être avec le Seigneur Jésus-Christ. La vue remplace la foi. C'est un Dieu visible. Et alors les hommes rejetteront complètement le christianisme qui, lui, demande précisément, n'est-ce pas, d'adorer un Dieu qu'on ne voit pas. De tout temps, les hommes ont donc cherché les moyens de substituer la vue à la foi. L'homme naturel, l'homme travaillé par le péché, a constamment tendu à cela. Remplacer la vue, la foi par la vue. Et c'est ce que le catholicisme a réalisé autant qu'il l'a pu. Hein. Et dans le catholicisme, il y a quantité de choses qui impressionnent la vue, qui impressionnent les sens, n'est-ce pas ? Quand on rentre dans une grande cathédrale, un jour de grande cérémonie, il y a beaucoup de lumière, on respire le parfum d'un encens, n'est-ce pas ? On entend les grands orgues qui déversent des sonorités magnifiques, tout ça travaille les sens, n'est-ce pas ? C'est la vue, ça. Ça, c'est la vue. C'est le sensible. C'est le domaine du sensible. Le catholicisme, donc. Et puis alors, comme ils ne pouvaient pas quand même montrer Dieu, ben, ils ont montré le pape. Ils ont montré le pape dans des vêtements blancs. Bon. Et ils le montrent encore. Et ils ont montré des cardinaux. Des cardinaux. Ils ont montré des évêques, des archevêques, dans des vêtements rutilants. Enfin, nous aurons l'occasion de revoir là-dessus. Enfin, toujours, toujours selon le principe, remplacer la foi par la vue. Voilà pourquoi, essentiellement, déjà, le catholicisme est quelque chose de radicalement mauvais et faux, ça, parce que vous remplacez la foi par la vue. À ce moment, la trinité satanique sera imposée. Il y aura le dragon. Le dragon, c'est Satan qui prend la place de Dieu. Il y aura l'antichrist qui prend la place de Christ, et il y a le faux prophète qui prend la place du Saint-Esprit. Voilà, la trinité satanique, on la revoit d'ailleurs au chapitre 16 de l'Apocalypse, n'est-ce pas ? Les trois bouches, les trois esprits méchants, n'est-ce pas ? Et c'est ce qui va justifier d'ailleurs le chiffre de la bête, le nombre de la bête, qui comprend trois chiffres. L'intention de Dieu, en nous donnant l'Apocalypse, consiste à révéler à l'Église ce qu'elle a besoin de savoir pour ne pas être surprise et désorientée quand les grands bouleversements commenceront à survenir. Pensons à l'avertissement de Jésus. N'est-ce pas, je vous dis, nous parlons de l'enlèvement de l'Église comme ça, un petit peu trop sans bien réfléchir, alors que le Seigneur Jésus nous a dit, par exemple, ceci dans Luc, au chapitre 21, Luc chapitre 21 et verset 34, il nous a dit ceci, « Prenez garde à vous-même, c'est à des disciples, c'est à l'Église qu'il parle, prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, c'est à l'Église que cela est dit, n'est-ce pas ? Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Donc, nous allons voir, nous commençons à voir, mais nous allons voir des choses, n'est-ce pas, qui vont nous éprouver, échapper à toutes ces choses qui arriveront. Il faudra de la force, il faut que nous ayons de la force. Veillez donc et priez en tout temps, nous dit le Seigneur, afin que vous ayez la force. C'est par la prière que nous obtiendrons de Dieu la force d'échapper à toutes ces choses et de paraître debout devant le Fils de l'homme, de paraître prêt vraiment à entrer dans le royaume de Dieu.